Bonsoir. La majorité présidentielle et l'opposition congolaise ont organisé leur meeting respectif le week-end dernier à Kinshasa. Le meeting de la majorité avait pour objectif de soutenir les dialogues politiques initiés par les chefs de l'État et même les facilitateurs Edem Kodjo. Du côté de l'opposition, le rassemblement a réaffirmé son exigence de voir la présidentielle être organisée dans les délais constitutionnels tout en récusant les facilitateurs Edem Kodjo. Quelle analyse faire de ces messages? Nous en parlons avec le professeur Moïla Chiembe, le directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Bonsoir, professeur Moïla Chiembe.
Bonsoir.
Professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Bonsoir, professeur Alphonse Maïndo.
Bonsoir.
Et Joseph Kongolo, il est analyste politique. Bonsoir, monsieur Joseph Kongolo.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Meeting de la majorité présidentielle vendredi dernier à Kinshasa, des milliers de militants et cadres de cette plateforme politique ont répondu nombreux à ces meetings et dit des vérités au stade Tata Raphaël. Au cours de ce grand rassemblement politique, le secrétaire général de la majorité présidentielle a axé son discours sur le dialogue, la paix et les élections, ainsi que le soutien affirmé au président Joseph Kabila. Et face à cette foule compacte, Aubin Minaku a lancé « Ceux qui ne veulent pas du dialogue sont les partisans des pillages, du chaos. Nous disons non aux pillages. » Jeff Ngoy pour les détails.
C'est dans une ambiance frénétique que les militants de la MP envahissent le stade, chantent et scandent des slogans à la gloire de Joseph Kabila. Un cadre de la majorité et ministre de l'EPS, Maker Mwangu, explique les raisons qui l'amènent au meeting.
Je suis venu répondre à l'appel de la majorité présidentielle qui soutient le président de la République dans son message pour appeler les acteurs politiques congolais au dialogue pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est important. C'est ce qui explique notre présence au stade. Et en voyant ce qui se passe, je crois que c'est un message assez fort que la population de Kinshasa lance à la classe politique congolaise. Oui, au dialogue tel que recommandé par le président de la République.
Après une longue attente, Aubin Minaku, secrétaire général de la majorité présidentielle, monte à la tribune et livre son message pour le dialogue et la paix. Il est plusieurs fois applaudi.
Nous sommes venus ici pour exprimer notre attachement à Joseph Kabila. Nous sommes là pour montrer que ce que fait Joseph Kabila, la démocratie qu'il a initiée au pays, les Kinois les ont bien acceptés.
Tout se termine autour d'un verre. Les sympathisants de la majorité festoyant ainsi au quartier Matongé.
Merci Jeff Ngoy. Meeting du Rassemblement des forces politiques et sociales pour le changement, Étienne Tshisekedi s'est adressé dimanche dernier à Kinshasa à des milliers de personnes venues suivre son message. Dans ce message, le président de l'UDPS a abordé la question du dialogue national, a invité la jeunesse non seulement à s'investir pour arracher la démocratie, mais également à se prendre en charge. Il a aussi interpellé la police et l'armée d'être apolitiques. Suivons ce reportage d'Innocent Olinga.
D'entrée de jeu, Étienne Tshisekedi estime que la mobilisation des Kinois lors de son retour et celle de ce dimanche sont une sorte de son plébiscite par le peuple congolais. Parlant du dialogue national, les rassemblements des forces politiques et sociales pour les changements le veut bien, dit Étienne Tshisekedi, mais sans l'actuel facilitateur. Étienne Tshisekedi s'explique.
Celui qu'on nous a donné comme facilitateur, nous avons constaté qu'il n'est pas neutre. C'est un grand kabiliste. C'est pourquoi le rassemblement lui a retiré sa confiance et nous avons demandé à l'Union africaine de choisir quelqu'un d'autre qui pourrait avoir la confiance de tous.
Toujours au sujet du dialogue, comme préalable encore, il faudrait libérer tous les prisonniers politiques et d'opinion et dépolitiser la radio-télévision nationale. Parlant du processus électoral, Étienne Tshisekedi invite le peuple congolais à se prendre en charge après le 19 décembre, date qu'il considère comme fin du préavis de Joseph Kabila, et invite les jeunes à lutter pour l'instauration de la démocratie. démocratie, c'est le gage, selon lui, de leur bien-être. Étienne Tshisekedi invite la police et l'armée à être au service de la nation et non d'un individu. Il dénonce les montages judiciaires contre Moïse Katumbi et promet le retour de celui-ci sous peu.
Merci Innocent Olenga. Professeur Moïda Chiembe, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. D'abord, sur le plan de la forme, quelle lecture vous faites de ces différents meetings aux allures des campagnes électorales?
Le moins que l'on puisse dire est que ces deux meetings qui se sont tenus quasiment au même instant, à quelques heures près, sont venus lever le voile qui planait sur l'effectivité de deux articles de la Constitution dont on se demandait quelle était leur effectivité. Par exemple, l'article 26 de la Constitution qui pose que, je cite, la liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative et compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation, la loi en fixe les mesures d'application. L'autre article, c'est l'article 183, dont on se demandait quelle était encore son effectivité depuis que les jours et les mois qui sont passés, les risques d'affrontement entre la majorité et l'opposition étaient devenus évidents. C'est l'article posant le principe selon lequel la police nationale est apolitique, elle est au service de la nation congolaise, nul ne peut la détourner de ses fins propres. Donc, lorsqu'on voit la majorité claironnante, fleurs au fusil, femmes, enfants, gestes brûlants dans l'asile, bonheur affiché, et lorsqu'on regarde également la mine épanouie de la des oppositions, non seulement à l'accueil de M. Étienne Tshisekedi, mais également au meeting qui s'en est suivi, on peut au moins se dire vive la République, parce que toutes les interrogations que beaucoup avaient se sont peut-être dissipées en partant du principe que rien n'est irréversible. Les Congolais, dans toute leur tourmente, peuvent montrer que contrairement à l'idée reçue que ce pays n'est pas un État démocratique ou qu'on ne peut pas le démocratiser, si la classe politique congolaise se dépasse un peu, met au-dessus de ses propres intérêts, les intérêts de la nation, les intérêts de la patrie, on peut assister à des meetings de l'opposition, à des meetings de la majorité présidentielle, chacun exprimant au pays ses intentions, ses volontés, avec l'espoir que le jour venu, le peuple dira qui est le meilleur, si c'est l'opposition ou si c'est la majorité présidentielle. Donc on peut dire qu'au moins, l'équivoque a été levé, que ce n'est pas en fait les lois qui font défaut dans ce pays, c'est la volonté politique de les appliquer. Lorsque l'opposition se mobilise et demande à ses hommes et à ses femmes de ne pas, profiter de l'opportunité pour tomber dans l'opprobre, d'inciter au désordre public ce qui a toujours été la charte de plomb pour le pouvoir, de dire mais oui, mais parce qu'on craint que l'opposition ne trouble l'ordre public. Professeur. Et lorsque la majorité elle-même se discipline en considérant que chacun peut exprimer son opinion, ce qu'on vient de voir là, c'est la belle image d'un État démocratique en construction lorsque la classe politique se mobilise, prend conscience des intérêts de la nation et chacun se donnant les moyens de savoir et raison garder.
Professeur Moïda Chiembe, sur le fond, la majorité présidentielle réitère son soutien au dialogue national et au facilitateur Edem Kodjo, et tandis que de son côté, l'opposition maintient ses conditions, notamment la libération des prisonniers politiques et d'opinion, ainsi que la réquisition d'Edem Kodjo. Comment vous analysez ces différentes positions qui, à première vue, n'ont pas évolué?
Il n'y a rien sur le soleil. Lorsqu'on connaît, lorsqu'on entend régulièrement la majorité présidentielle, le créneau de soutien au dialogue prôné par le chef de l'État, ce n'est pas une question nouvelle. le soutien à M. Edeme Kodjo dès lors que ce fut là, d'abord la revendication de l'opposition qui ne voulait pas s'embarquer dans ce dialogue sans qu'il y ait un témoin que la communauté internationale aurait proposé. Et c'était la demande de l'UDPS, il faut le rappeler. Et dès que le gouvernement a compris que pour avoir l'UDPS, à tout le moins, il fallait accepter cette conditionnalité, la majorité est sur cette position. Et l'opposition a toujours revendiqué, on le sait depuis des mois, voire des années, que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Mais ce qui est nouveau, c'est la récusation de M. Kodjo, procès de kabilisme. Alors, je ne sais pas si réellement M. Edeme Kodjo est kabiliste, mais le moins que l'on puisse dire est qu'après avoir ouvert les vannes, c'est-à-dire après avoir fait la démarche d'aller à l'étranger rencontrer l'opposition et essayer d'entendre les désidérata de cette opposition, notamment la libération de quelques prisonniers politiques ou non, on avait cru penser que M. Kodjo freinerait l'élan de la majorité présidentielle et d'autres pressions extérieures pour boucler au moins l'élément du processus pour qu'il plaide auprès du pouvoir pour obtenir ce qui a été obtenu, notamment pour les jeunes de la province du Nord-Kivu. Mais malheureusement, la précipitation de l'engagement du processus a été, à tort ou à raison, considérée par l'opposition comme une sorte de volte-face. Mais est-ce que, peut-être s'agit-il là tactiquement d'une erreur, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à le qualifier de kabiliste? Je pense que probablement l'opposition est allée trop loin. Quelqu'un peut commettre une imprudence, on peut la corriger, et je ne pense pas personnellement que M. Kodjo puisse réellement être accusé de kabilisme.
Professeur Moïla Chiembe, vous dites que l'opposition est allée très loin en qualifiant Edeme Kodjo de très kabiliste, mais dès lors que cette opposition, donc le rassemblement, qualifie ses facilitateurs de très kabilistes, ne peut-on pas dire que le sort de M. Edeme Kodjo est scellé?
Je ne sais pas si on peut dire effectivement que le sort de M. Kodjo est scellé. M. Kodjo a été nommé, bien entendu. L'UDPS et ses alliés souhaitaient que ce soit Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui désigna ce facilitateur. Et on a assisté à une sorte de cavalcade entre l'attente sur le secrétaire général et la nomination par l'Union africaine. Évidemment, vous savez, tous les Africains s'honorent de voir que les conflits africains peuvent être téléguidés, voire conseillés par les Africains. On peut penser que cette approche est aussi respectable que celle de demander au secrétaire général de l'ONU de désigner quelqu'un. Mais à tout le moins, dans la mesure où il a été désigné, on peut lui faire confiance et lui demander peut-être de rectifier le tir, parce qu'en fait, ce qu'on lui reproche, c'est de n'avoir pas conduit au bout la demande de l'opposition d'obtenir du pouvoir qu'un certain nombre de leaders politiques soient libérés.
Merci,
soit
professeur.
Ceux qui sont déjà condamnés, jugés et condamnés, soit ceux qui sont devant les tribunaux avec les tribulations que l'on sait.
Merci, professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne de Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Et comment vous analysez ces deux grands meetings?
Merci bien. Je pense que les quand on... On voit ces deux grands meetings, on a là, si vous voulez, une véritable veillée d'armes hein, de deux camps qui sont prêts à en découdre. Chacun est en train de fourbir ses armes hein, pour montrer ses muscles, montrer de quoi il est capable. Où on est dans une espèce de surenchère qui peut aussi dégénérer. Hein, il faut pas l'oublier, ça peut facilement dégénérer. Et ça me rappelle ça me rappelle le concept de Papadopoulos, hein, c'est un politique grec qui parlait de société fragmentée. Une société où vous avez des grandes divisions, où ça peut être deux ou plusieurs, mais qui devient alors, il finit par être difficile à gouverner sur un mode autoritaire, voyez-vous, et centralisé. Donc, parce que là, on a différents fragments de la société qui échappent, si vous voulez, à l'autorité du pouvoir central. Et je crains que nous tendions vers cette espèce de société fragmentée que Papadopoulos avait déjà fait remarquer en 99.
Oui, alors, professeur, lorsque...
Oui,
lorsque vous voyez la manière dont la population a été, n'est-ce pas, mobilisée lors de ces meetings, est-ce qu'on peut parler d'une démonstration de force dans les deux camps?
Oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est là face à une véritable surenchère politique. Et donc, chaque camp est en train de vouloir montrer qu'il a de la popularité, il a de la légitimité populaire, et donc les peuples l'aiment, le peuple l'adore, et comme on entend souvent ici dire ces derniers temps, il y a un camp qui dit voilà, Roumela, et un autre camp qui dit Yebela, et c'est ça qu'on a mobilisé, si vous voulez, ce week-end. Donc vous avez vu qu'il y avait au départ seule la manifestation de l'opposition qui était prévue, puis la majorité a voulu occuper aussi l'espace politique pour ne pas laisser l'opinion publique nationale et internationale simplement, mobilisée par l'opposition. Donc la majorité a voulu aussi occuper le terrain politique en mobilisant ses partisans qui ont été presque aussi nombreux que ceux de l'opposition. Donc on est là, donc on se demande qui a vraiment le peuple avec lui. Voilà, c'est ce qui a été fait, c'est semer le doute. Voyez-vous, parce qu'il y a certains qui pensaient démontrer que c'est eux qui avaient la légitimité populaire, qui étaient aimés de la population. Ah, donc il fallait contrer ces messages-là en montrant qu'on a aussi l'adhésion populaire.
Professeur Maïndo, M. Etienne Tshisekedi estime que la mobilisation des Quinois lors de son retour et celle de dimanche dernier est une sorte de son plébiscite par le peuple congolais.
Oui. Bon, alors il faut garder toutes mes yeux. Kinshasa, ce n'est pas le Congo, et Kinshasa aussi, c'est quand même 12 millions d'habitants. Donc lorsqu'on arrive à mobiliser plusieurs milliers, je n'ai pas entendu parler des millions de gens. Donc on est quand même dans les symboliques. Mais le fait simplement d'avoir, si vous voulez, cette masse, ces milliers de gens qui vous suivent, ça montre que cet homme politique dont on disait que c'était une espèce de batterie périmée ou quoi, eh bien, cet homme-là a montré qu'il était capable de mobiliser encore beaucoup de population derrière lui et qu'il incarnait une espérance, il incarne un espoir, il incarne, si vous voulez, l'alternance. C'est évidemment le message qui est passé et l'histoire retiendra ça.
Et comment vous comprenez le message de M. Etienne Tshisekedi lorsqu'il invite le peuple congolais à se prendre en charge après le 19 décembre 2016?
Alors, il est dans son rôle. Il est dans son rôle. À partir du moment où il veut s'imposer en alternative crédible avec les autres forces de l'opposition face au président de la République et à sa famille politique, eh bien, il doit pouvoir mobiliser la population pour leur dire, évidemment, la Constitution nous donne le droit de pouvoir mettre un terme à ce second mandat qui est le dernier, donc qui se termine donc le 19 décembre. Mais est-ce que cet appel, je voudrais rappeler ici que ce n'est pas la première fois que ce genre d'appel est lancé dans l'histoire de ces pays. Il y a eu plusieurs appels de ce genre de l'opposition, y compris de Tshisekedi lui-même. Souvenez-vous de 2011, après l'élection, il a appelé les gens à le soutenir, il a appelé les gens à arrêter les chefs de l'État, qu'il considérait comme étant l'usurpateur de son pouvoir, et vous connaissez la suite de ça. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'il y a ce type d'appel. Et donc, il faut le prendre comme une mobilisation de son électorat qui a besoin d'entendre un discours franc. Et il faut comprendre ça aussi comme une espèce de surenchère politique, parce qu'on sait qu'on va aller, on sera obligé, compte tenu de l'agenda auquel on a été soumis, on sera obligé à un moment donné de négocier. Alors si l'on veut négocier, il faut monter les enchères les plus haut possible pour que l'on puisse pouvoir obtenir quelque chose de raisonnable, d'acceptable. Et ça, c'est les bons jeux d'un fin tacticien politique qui s'est dit.
Et pour ce Maïndo, Edem Kodjo, très kabiliste selon Étienne Tshisekedi, comment voyez-vous la suite? Est-ce que M. Edem Kodjo pourrait tirer les conséquences de cette récusation et jeter l'établier, ou il pourrait se maintenir étant donné que l'Union africaine lui a renouvelé la confiance? Question, n'est-ce pas, de rectifier le tir comme l'a proposé le professeur Moïla Tshiembé?
Alors, bon, si Edem Kodjo veut rectifier les tirs, est-ce qu'il aura les moyens pour pouvoir rectifier les tirs? Parce que qu'est-ce qu'on attend de lui? Eh bien, c'est qu'on attend qu'il obtienne la majorité présidentielle, c'est ce que l'opposition attend de lui, qu'il obtienne la libération des prisonniers politiques, c'est qu'il obtienne plutôt l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, c'est qu'il soit assisté d'autres facilitateurs internationaux. Ces conditions, à mon avis, sont loin d'être remplies dans les prochains mois. Et donc, il risque d'être pris un peu de court par les événements, parce que là, j'ai comme l'impression que plus on s'approche de la date fatidique de décembre, la machine politique congolaise semble s'emballer au point qu'il risque d'être pris de court, y compris le comité national. Et je voudrais rappeler ici que déjà en 97, il y a un certain envoyé de la communauté internationale pour les Grands Lacs, un monsieur Aldo Aiello, il avait connu le même sort. Voyez-vous, ce ne serait pas la première fois qu'il y aurait ce type de dépassement d'un facilitateur.
Merci,
par les événements.
Professeur.
Qui, en 97, on le sait, ça a conduit au départ de Mobutu dans les conditions que l'on connaît.
Merci,
donc,
professeur.
Il faut vraiment véritablement pouvoir tirer des leçons de ce que est notre passé récent et même ancien.
Merci, professeur Joseph Kongolo, analyste politique. La majorité présidentielle comme l'opposition ont su mobiliser des milliers de personnes lors de leurs discours respectifs. Quel est-il que vous faites de cette mobilisation?
Bien, merci beaucoup. Je tiens à saluer le professeur Maïndo et le professeur Moïla. Je voudrais dire que d'abord, ce sont des moments très rares de voir la démocratie d'un autre pays respirer correctement sans heurts. Et ça nous a réjouis. Je crois que le professeur Moïla l'a dit aussi. Mais au moins, on a constaté que la police, elle est à féliciter parce qu'en fait, avec professionnalisme, elle est arrivée quand même à contenir toutes ces manifestations. Et cela démontre assez clairement que les heurts qui ont accompagné les manifesteurs antérieurs montrent bien qu'il y a quelque chose qui cloche un tout petit peu. Parce que quand il y a des grandes foules qui sont traînées par les hommes politiques, la police est arrivée quand même à contenir et à gérer correctement ces foules. Mais quand il n'y a pas suffisamment de foules, quand il n'y a pas assez de monde, vite, ce sont les heurts qui surviennent. Je comprends très vite que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne clochait pas. Alors cette fois-ci, avec la communauté internationale qui avait un regard assez ouvert sur toutes ces manifestations et tout ça, j'ai vu que la police quand même a gardé les proportions et avec professionnalisme, il est arrivé quand même à sécuriser toutes ces manifestations. Je crois qu'elle est à féliciter sur ce point. Ce qui est aussi vrai, le professeur Moïla l'a dit, au moins nous avons vu qu'il y a une liberté d'expression, liberté de manifestation, et nous avons vu des gens défiler, et les messages ont été un peu plus politiques. Je crois que c'est à féliciter, il n'y a pas eu de débordement dans le message, de toutes les façons on est resté dans les proportions tout à fait politiques, et je crois que c'est aussi quelque chose à féliciter. Mais quand on voudrait aller dans le fond, je crois que chacun est resté dans son rôle. Le pouvoir est resté dans son rôle et que toute cette manifestation nous a amené deux choses. Premièrement, il y a deux blocs. Au moins, c'est plus tergiversé aujourd'hui où on est dans le rassemblement ou on est dans la majorité. Parce que les deux positions sont tranchées. N'est-ce pas? Ça facilite la tâche, n'est-ce pas, dans le contact, dans la recherche du consensus. Il y a deux blocs. Ça, c'est la première chose que ces deux manifestations nous ont donné. Deuxièmement, c'est déjà le dialogue. Le discours de Tshisekedi face au discours de Minaku, c'est déjà le dialogue. Même si ce n'est pas dans la forme et dans le format voulu par le facilitateur, mais le dialogue a déjà commencé au fait. A déjà commencé, chacun donnait ses couleurs, c'est-à-dire que l'extrémisme de ces deux discours ne doivent pas nous effrayer, parce qu'au fait, c'est la plus haute hypothèse, n'est-ce pas, que chacun amène dans le dialogue, quitte à confronter les idées les unes aux autres, de manière à trouver un consensus. Donc, ça ne nous effraie pas. Et dans la démarche d'Étienne...
Donc, chacun exprime sa position de départ.
Oui, c'est la position de départ.
Quitte à aller au dialogue pour essayer de faire mutuellement des concessions.
On va confronter les positions et jusqu'à trouver, n'est-ce pas, un consensus, un compromis entre les deux. Voyez-vous. Alors, ce que je voudrais dire, pourquoi Étienne récuse le facilitateur aujourd'hui? Alors que, plusieurs fois, Étienne a rencontré le facilitateur à Paris, en Belgique. Je suis en train, ça c'est moi qui le dis, je suis en train d'entrevoir que pour l'opposition, elle n'est pas prête à aller au dialogue avant, soit le 19 décembre, soit avant le 19 décembre. Le 19 septembre et le 19 décembre. Donc, récuser Edem Kodjo, c'est tout simplement une politique, une stratégie d'usure pour gagner le temps et renvoyer. Parce qu'il y a des nouvelles négociations. Je vous dis que pendant que l'on parle, il y a des officiels qui sont venus d'ailleurs pour chercher à trouver, n'est-ce pas, un compromis entre les deux camps. Et tout ça, ça demande quoi? Tout simplement qu'on entre dans une nouvelle phase de négociation de fait, politique, secrète, de manière à trouver des compromis, n'est-ce pas, soit sur Edem Kodjo, qui est le facilitateur, soit encore trouver quelqu'un d'autre. Mais je sais que dans les coutumes diplomatiques internationales, on ne peut pas changer comme ça un facilitateur simplement de la volonté, n'est-ce pas, d'un camp. Mais au moins, on peut trouver le juste milieu, c'est-à-dire, on peut réhabiliter le comité de soutien, on peut réhabiliter le comité de soutien et lui donner peut-être un petit pouvoir, n'est-ce pas, à côté d'Edem Kodjo. Tout dépend de la manière que les facilitateurs, du moins les autres facilitateurs, c'est-à-dire les politiques, vont devoir réconcilier les deux. Mais je suis en train de croire et de penser que l'opposition n'est pas prête à aller aux élections avant soit le 19 septembre, soit le 20 décembre. Et pour cela, il faut multiplier des stratégies pour pouvoir renvoyer la manifestation dont ces dates-là, parce que pendant ces dates, on fragilise le pouvoir sous le plan constitutionnel et sous le plan de droit. En ce moment-là, on peut aller en négociation, n'est-ce pas, au dialogue, tout en étant sur le même pied d'égalité, sans se reclamer d'un quelconque mandat en cours. Voyez-vous.
Donc, comme vous le dites, récuser Edem Kodjo, c'est une stratégie de l'opposition, une stratégie d'usure afin de pouvoir gagner du temps. Et donc, à ce stade, on ne peut pas parler des blocages dans ces processus de dialogue.
Non, il y a ceci. D'abord, ça c'est ma lecture. Pour l'opposition, le dialogue ne peut pas empêcher les élections. Le dialogue n'a rien à donner comme injonction à la CENI, ni au pouvoir, ni à la communauté internationale. C'est-à-dire, le dialogue peut se tenir à la veille des élections. Le dialogue jouera toujours son rôle.
Et là, c'est un point de vue qui ne partage pas la majorité présidentielle.
Effectivement, c'est le point de vue que la majorité est pressée. C'est pourquoi le professeur Moïla a dit qu'il y a une précipitation. La majorité sait que le dialogue qui contribuerait à sa stratégie, c'est ce dialogue qui va se passer avant le 19 septembre. Et l'opposition, à mon avis, veut bien que ce dialogue aille au-delà du 19 septembre ou au-delà même du 20 décembre. En ce moment-là, personne ne peut se réclamer d'un quelconque mandat et on peut aller, n'est-ce pas, sur un pied d'égalité. Je crois que nous sommes dans la tactique.
Merci.
Nous sommes dans la tactique et c'est celui qui a la lucidité qui va l'emporter sur l'autre.
Merci. Professeur Molachiembe, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Mbujimayi.
Moi, c'est Félix Kamangakanda, j'appelle depuis Mbujimayi. Le vrai problème qui divise actuellement la classe politique congolaise n'est pas le dépassement du délai constitutionnel, mais plutôt la qualité et la légitimité de la personne qui va diriger le pays après le 20 décembre. Car selon la majorité, c'est l'actuel président qui reste en place et que l'opposition réclame sous-entendu une transition avec quelqu'un d'autre au pouvoir.
Oui, professeur Moïla Chiembe.
Bah, écoutez, que l'on puisse s'interroger sur l'opportunité de celui qui dirigera le pouvoir demain. Vous savez, la Constitution est claire sur le sujet. Même si dans l'interprétation
constitutionnelle de la Cour, tout le monde a dit une chose de son contraire. La Cour constitutionnelle n'octroie pas un nouveau mandat au président de la République. Il faut toujours le rappeler parce que vos émissions ont une valeur pédagogique. La Cour ne l'a pas dit, la Cour n'a pas la compétence de donner un nouveau mandat au président de la République. Néanmoins, la Cour, en rappelant le texte constitutionnel, lorsqu'un président finit son mandat, il finit son mandat en remettant le pouvoir au président démocratiquement élu. Ça, c'est le texte. Mais ça ne veut pas dire que la Cour a fabriqué un nouveau mandat pour le président de la République. Et la conséquence logique, constitutionnellement, c'est que si, par exemple, la majorité se levait en disant « Mais voilà, le président de la République est notre candidat demain », on tomberait alors dans le cas des violations intentionnelles de la Constitution. C'est ce que probablement l'opposition cherche, à voir le président de la République lui-même, soit entraîné par sa majorité ou par d'autres pressions, dire « Ben voilà, je me représente demain ». Et à ce moment-là, l'opposition dira « Si, on vous l'avait déjà dit, il a violé intentionnellement la Constitution, allons chercher à la Cour constitutionnelle sa destitution pour crime de haute trahison ». Je pense qu'on en est pas encore là. Si demain, toutes choses étaient intégrées par ailleurs, si l'élection ne se fait pas, si le dialogue aboutissait par exemple à un compromis, il est probablement logique que le président qui est là, dont le mandat est déjà fini, mais qu'on ne peut pas éjecter du pouvoir en laissant le vide abyssal à la tête de l'État, ce qui est tout à fait inacceptable, ni pour l'opposition, ni pour le pouvoir. Alors dans un compromis futur, on peut voir quel accommodement trouver pour que dans 6 mois, dans 1 an, ou je ne sais pas dans combien de temps, le pays ne mourra pas. S'il y a un compromis historique entre Congolais de dire, voilà, c'est notre pays, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a de la possibilité, il y a de la sagesse dans l'opposition comme dans la majorité présidentielle de se situer au-dessus de la mêlée et de sauver la République. Alors, si les politiciens ne voient pas les intérêts de la République, l'avenir de la nation, et ils ne voient que leurs petits intérêts, alors là, il y a risque de guerre, d'affrontement, toute chose que la communauté internationale et les Congolais...
Merci, porteur. Porteur Maïno, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kinshasa.
John Kamangou, à partir de la ville de Kinshasa. Le rassemblement croit avoir fait mieux avec ses exigences, mais ne dit pas avec quel fichier électoral les élections seront organisées dans le délai. Pour la majorité présidentielle, il est ambigu d'affirmer tout haut ne pas vouloir violer la Constitution en soutenant avec la dernière énergie le dialogue comme si ce dernier était l'ultime rempart aux solutions de problèmes du pays. Eu égard à cet imbroglio de la classe politique congolaise, il y a lieu de conclure que ni la majorité présidentielle, ni l'opposition, aucun de ces deux camps n'a aujourd'hui la volonté de décrisper l'atmosphère politique actuelle.
Professeur Maïndo.
Oui, évidemment, je comprends un peu l'inquiétude de notre compatriote. Évidemment, lorsqu'on regarde la détermination de la majorité à aller coûte au dialogue, on peut s'interroger également sur les enjeux qu'il y a derrière ça. Mais il ne faut pas oublier comment on en est arrivé à cette situation où on a besoin d'un dialogue. C'est parce qu'il y a eu quelque part de la mauvaise foi qui a fait qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire dans les délais, selon les obligations que l'on a en tant que responsable de la gestion de l'État. Et donc on crée soi-même une situation pour après profiter de cette situation qu'on a créée et demander donc de dialoguer. Et donc là, si vous voulez, il y a lieu de se poser la question sur la bonne foi, si vous voulez, de ceux qui sont aux affaires. Alors, en même temps, lorsqu'on regarde la question des élections, l'opposition estime qu'on peut aller aux élections avec les fichiers qu'on a actuellement, qui, je le rappelle, il avait été audité par les experts l'année dernière par les experts de la francophonie, qui ont dit que c'est un fichier qui est consolidé, qui est bon, il suffit de faire quelques nettoyages, on pourrait l'utiliser. Ces nettoyages peuvent être faits assez rapidement et on pourrait avoir les élections dans les délais. Ce serait un moindre mal, puisqu'on avait eu déjà des élections avec ces fichiers-là en 2011, et qu'on prévoyait de faire les élections locales l'année passée avec ce même fichier. Donc, on peut bien se contenter de ça, faute de mieux. Voyez-vous, autant accepter donc un compromis, un mauvais compromis, plutôt que de vouloir, coûte que coûte, d'avoir, si vous voulez, un fichier parfait qu'on ne pourra pas avoir. Même si on donnait à la CNI 2 ans, 3 ans pour faire un fichier, il y aura toujours des problèmes pour le fichier, sera toujours contesté.
Merci.
Donc on peut pas faire ça. Alors je voudrais revenir et porter cette occasion pour parler un peu de la question. J'ai entendu tout à l'heure et même dans les médias avant, j'ai entendu parler de faire de beaucoup de louanges sur les professionnalismes de la police cette fois-ci par rapport aux manifestations qui n'ont pas dérapé, qu'il n'y a pas eu de dérive, donc c'était vraiment bien. Oui, c'est bien, mais ça nous rappelle une chose, c'est lorsque l'on décrit souvent des problèmes avec la répression de la police, c'est qu'il y a quelque part, puisque la police obéit aux ordres. Donc il y a quelque part des ordres qui lui sont donnés, qui n'étaient pas de bons ordres, qui ont entraîné à des dérives.
Merci.
Si vous avez le 25 du mois passé, il y a eu des manifestations de taxis motards à Kisangani et ça aboutit à des morts. Si vous voulez, on a eu au moins 2 à 3 morts par balle. Et donc on est là, si vous voulez. Et moi, on peut se poser la question, comment ça se fait que pendant tout ce temps, il n'y avait pas ce qu'on fait, on
vend ce qu'on
dit professionnalisme et tout d'un coup, hop, on a un professionnalisme qui est, si vous voulez, loué par tous, par les uns et les autres.
Merci.
Donc, quelque part, ça signifie qu'on avait ces capacités, mais on ne les utilisait pas.
Merci, on a compris le message. Joseph Kongolo, il y a une question qui vous a adressé. C'est M. Hubert Zagabé.
Je suis Zagabé Hubert. J'interviens depuis Bukavu. Je pense que ce n'est plus le moment de s'accuser mutuellement, mais plutôt le moment de réfléchir mutuellement afin de trouver et préparer comment les élections libres et transparentes seront organisées. Celles-ci seront suivies par une alternance qui sera clôturée par une remise et reprise civilisée telle que l'a toujours promis le président de la République.
Joseph Kongolo.
Je salue le projet de notre ami. Je crois qu'il est carré, il est bon. Mais nous sommes en politique. Nous sommes dans une confrontation d'intérêts. Nous sommes dans la recherche du pouvoir ici. N'est-ce pas? Il y a les uns qui dirigent et qui, pour l'opposition, dirigent mal. Et l'opposition trouve que c'est une occasion pour nous de prendre le pouvoir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une confrontation d'intérêts. Il y a une confrontation d'intérêts, et dans cette confrontation d'intérêts, elle est exprimée par la confrontation d'idées. Donc, je crois que, Monsieur Hubert, qu'il sache que tout ce qui est politique, et surtout dans le contexte actuel, est une confrontation. Est une confrontation. Celui qui est au pouvoir cherche à montrer absolument qu'il gère bien, et que le schéma qu'il a tracé, n'est-ce pas, pour trouver une solution à la crise, est le bon, pendant que l'opposition trouve que vous n'êtes plus crédible du moment que c'est que la Constitution vous a demandé de faire, vous ne l'avez pas fait, et on ne peut pas vous donner une carte, voyez-vous, une carte, je ne sais pas, une félicitation. Non, je crois que l'opposition est dans son rôle de contester tout ce qui est en marge, n'est-ce pas, de la loi mère. Et là, c'est tout à fait normal. Et cela peut prendre la forme de toutes sortes de combats politiques, n'est-ce pas? Et donc c'est tout à fait normal. Donc ce n'est pas le schéma tel qu'il a tracé, il est bon, mais pour y arriver, je crois que nous sommes dans un rapport de force qui demande absolument que l'un d'entre les deux blocs, n'est-ce pas, puisse l'emporter.
Alors on se rend compte que les gens restent campés dans leur position. Et à votre avis, que faut-il pour prévenir cette sorte de crise politique qui se profile à l'horizon en RDC?
Oui, moi je crois que des façons, c'est d'abord le respect des textes qui régissent la République. Tant qu'on ne respecte pas les textes, c'est-à-dire on crée une situation conflictogène à l'interne. Et ça, c'est noir sur blanc. Donc, comme on n'a pas respecté les textes qui gèrent la République, et qu'on est à la dérive aujourd'hui, d'ici le 19 décembre, si le président de la République n'arrive pas à convoquer l'électorat, c'est qu'il n'aura pas respecté le texte. Ça doit créer des conflits. Ça doit créer des conflits entre différents acteurs politiques et même sociaux. Parce qu'en fait, l'alternance aujourd'hui, c'est celle-là qui va consolider l'élan démocratique, n'est-ce pas, qui est dans la République démocratique du Congo. Et si on rate cette alternance, nous rentrons dans les cercles vicieux qui vont se renforcer les uns les autres. Ah, il faudra encore du temps pour pouvoir, n'est-ce pas, briser ces cercles vicieux. Voilà pourquoi la société congolaise en général, l'opposition aujourd'hui, parce que c'est une aubaine pour l'opposition, on tient à ce qu'il y ait alternance à la date pour respecter la Constitution, à la fois on consolide la démocratie et à la fois aussi on change la vision, n'est-ce pas, de la gestion du pays.
Merci.
Voilà, c'est ce que nous cherchons.
Professeur Moïse Atiyembe, que faut-il pour éviter au pays une crise politique, n'est-ce pas, qui se profile? Il y a la déclaration locale de la délégation de l'Union européenne concernant les processus électoraux en RDC qui a été rendue publique aujourd'hui, 2 août 2016. Et la délégation rappelle que l'Union européenne reste mobilisée en faveur de la tenue du dialogue national inclusif et exhorte le gouvernement congolais ainsi que toutes les autres parties concernées à créer les conditions nécessaires pour son démarrage le plus rapidement possible.
Disons que la seule alternative qui puisse probablement empêcher le pays de sombrer, c'est d'imaginer les voies et moyens d'une élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Pourquoi ? Parce que déjà, avec la réforme passée, l'élection présidentielle est passée de 2 tours à 1 tour. Le fait d'avoir de nouveaux majeurs, même d'avoir un nouveau fichier, ça ne changerait absolument rien dans l'essentiel, parce que il suffit qu'il y ait autant de candidats et que le premier qui aura, disons, 20% ou 19%, tant qu'il dépasse le deuxième de 2 ou 3%, il est président, démocratiquement élu et incontesté. Donc, le volume de suffrage, combien de gens participeraient, ça compterait probablement pour les élections législatives. Avec le doublement des provinces, il faudra délimiter les nouveaux sièges sociaux, enfin les sièges électoraux, et essayer de faire le découpage. On peut encore attendre. Mais l'élection présidentielle peut être faisable, même avec ce fichier, quel qu'il soit, dès lors qu'il y a un accord de principe sur la possibilité de l'accepter et de l'amender un peu, l'élection présidentielle peut mettre tout le monde d'accord.
Professeur Maïndo, que faut-il pour prévenir cette crise politique qui se profile à l'horizon en RDC? Vous avez suivi le prof Moïna Chiembe qui pense qu'il faut imaginer les voies et moyens de la tenue d'une élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Vous pensez que cela pourrait débloquer la situation dès lors que la classe politique semble pas se mettre d'accord, n'est-ce pas, sur cette question précise?
Bon, évidemment, c'est ce qu'on aurait bien souhaité, c'est qu'il puisse y avoir une espèce de dépassement de la part de différents hommes politiques, de manière parce que ce qui déchire le plus aujourd'hui, c'est l'enjeu présidentiel, c'est l'élection présidentielle. Donc, si on peut trouver des mécanismes qui permettent justement de répondre à ça, comme ce que suggère le collègue Moïna Tiembe, ce serait une bonne chose. Et c'est ce que j'ai toujours, pour moi, c'est ce que j'ai toujours défendu, autant qu'il est possible d'avoir l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel avec les textes actuels. Je voudrais dire ici avec Jean Jaurès, c'est que le moteur de l'histoire, ce n'est pas la classe sociale, c'est l'homme. Il faut que l'homme congolais, il faut que l'homme politique congolais soit capable de dépassement, de volonté pour pouvoir changer, si vous voulez, les choses, pour pouvoir amener la paix sociale, pour sauver ce pays qui est encore fragile, je le répète. Et c'est ça qui permettra d'avoir une certaine légitimité. Donc on peut rester dans la légalité, voyez-vous, puisque même au-delà du 19 décembre, le chef de l'État restera dans la légalité.
Merci.
Mais il n'aura pas de légitimité. Donc il faut aller vers la légitimité.
Merci,
pour
professeur.
Éviter une nouvelle crise dans notre pays.
Merci, professeur. Je considère ça comme votre conclusion. Professeur Monsieur Joseph Kongolo, votre conclusion?
Oui, je soutiens ce que le professeur Moïla a dit. Je crois que pour décrisper la situation politique dans le pays et éviter la crise ou le dérapage, je pense franchement qu'il faut, ne fût-ce que dans les délais, organiser des élections présidentielles. C'est le minimum qui soit pour pouvoir décrisper la situation. Et je suis très sûr que le dialogue ne produira pas pratiquement une situation qui peut...
Dès lors qu'il n'y a pas unanimité dans la classe politique sur cette question-là, vous pensez que ça va débloquer la situation?
Ça ne dépend pas de la classe politique, ça dépend de la CENI avec ses partenaires pour pouvoir mettre sur pied, réhabiliter, n'est-ce pas, le fichier électoral de 2011 et l'auditer suffisamment, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, le mettre en pratique.
Merci, professeur Moïna Chiembe, votre conclusion.
Je pense que le bon sens, nous pouvons, hélas, qu'en appeler au bon sens des leaders congolais, de la majorité de l'opposition, pour sauver l'avenir de la nation. Et s'ils se mettent à la hauteur des enjeux, comme les manifestations que nous venons de voir, ils réhabilitent la justice.
tout le monde a bien vu que la police congolaise peut être comme toutes les polices du monde, républicaine et disciplinée.
Merci.
Quand on lui donne de mauvais ordres, il peut faire n'importe quoi.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Hippolyte Kapanga qui était à la technique. Et merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Kéline Couté et Béry Franklin Luchaka sous la supervision de l'équipe de la Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci à ce mercredi pour un autre débat. Et bonne suite de programme sur Radio Capi.